Bonjour, on est en direct du Tempo Festival avec Connecteur Radio et Maya Kamati. Alors Maya Kamati,
bonjour.
Bonjour. C'est qui Maya Kamati et c'est quoi musicalement? Pour ceux qui ne connaissent pas.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Maya Kamati, c'est une jeune femme qui fait de la musique professionnellement depuis 2012, avec une grosse évolution musicale tout au long de cette expérience-là, qui s'est vécue pas mal par le biais de la scène, en fait. Et du coup, une grosse évolution musicale, un premier album plutôt pop-folk, très acoustique, un deuxième album plutôt pop-électro, en recherche de sonorité, un troisième album EP, on va dire, un peu plus vénère, un peu plus direct, un peu plus frontal, en mode un peu pop-urbaine créole. Toujours avec un peu d'électro dedans, un peu de difficulté à définir par une seule chose. Je crois que si je dois définir Maya Kamati avec une seule chose, c'est trop compliqué.
Alors justement, tu parlais de ton EP, donc il est sorti il n'y a pas longtemps,
ouais.
Donc Sauvage.
Sauvage, ouais.
Et qu'est-ce qui s'est passé depuis la sortie de cette EP?
En fait, si tu veux, moi, la sortie de cette EP, en fait, déjà après, après l'épisode Covid qui a été fatal pour beaucoup, moi, je voulais pas trop me laisser abattre non plus. Et j'avais besoin vraiment d'écrire, en fait. Il s'est passé plein de choses pendant cette période-là. Et en fait, moi, en sortant de cette période-là, je sais pas pourquoi, mais je voulais pas revenir avec du réchauffé. Je voulais pas revenir encore faire des concerts de mon précédent album. C'est comme s'il fallait laisser ce qui avait été avant, sans regret bien évidemment, mais il y avait ce besoin d'exprimer des choses un peu plus frontalement, comme si en fait mes thèmes de chansons n'ont pas tellement changé. Je crois que c'est la façon de le dire qui a changé. Je pense qu'avant, j'enjolivais peut-être beaucoup de choses, j'essayais de dire les choses de façon un peu plus poétique, aussi un peu plus comme ce qu'on attend d'une femme, en fait, aussi un peu plus sagement, un peu plus en baissant la tête, de demander un peu l'autorisation de dire ces choses-là. Et je crois qu'après le Covid, ça a été une espèce d'implosion d'abord et d'explosion, en fait, quelque chose où j'ai voulu dire, mais en fait, ça m'épuise, en fait. C'est vraiment épuisant de devoir jauger ses mots, de toujours enrober les choses. Et en plus, en fait, tu peux dire les mêmes choses et on dirait que les gens ne comprennent pas, en fait. Le message ne passe pas. Donc, si je vais dire, si j'appelle un chat, peut-être qu'on va comprendre que je parle d'un chat. Voilà.
On le ressent hein, déjà musicalement et scéniquement, on voit l'évolution. On voit l'évolution et il y a eu pas mal de dates aussi. Tu as fait pas mal de dates suite à cette EP.
Ouais, mais ça continue. Hein. Tu sais, maintenant, on dit qu'un EP, un album, ça a une durée de vie, je crois, de 6 mois ou quelque chose comme ça. Et justement, dans cette optique-là, moi, je ne veux plus non plus me prendre la tête musicalement parlant. Je veux dire, je veux vraiment des choses beaucoup plus spontanées. Je me suis jamais définie comme une artiste hyper productive tout le temps. Et là, en fait, je crois que, en fait, j'ai besoin d'arrêter d'analyser tout, j'ai besoin de beaucoup plus de spontanéité. Et en fait, s'il y a quelque chose qui ne me va pas, je dirais que ça ne me va pas. Et s'il y a quelque chose qui me va, il faut dire aussi. Voilà. Mais en tout cas, la scène me permet ça parce que personne ne va pouvoir m'enlever le micro à ce moment-là. Et ça, c'est le fun.
J'ai vu aussi que tu t'es mis à faire des DJ sets. Alors, comment t'es venue l'idée, justement, de faire ça aussi?
Alors, j'appelle pas ça DJ set, moi, parce que DJ set, il y a une espèce de connotation un peu, justement, électro, club, pour danser et tout. Alors, ça danse beaucoup. Ça reste quand même mes compositions. Moi, je voulais quand même que ce soit un live, en fait. Donc, j'ai pas encore trouvé le nom exact de ce truc. De cette formule-là, c'est un solo set, on va dire, où j'ai des machines, où je me suis formée, tu vois, c'est quelque chose dont j'avais vraiment peur avant. Et en fait, bah, c'est pareil. C'était, je crois que c'était l'année du challenge, de me mettre au défi moi-même. Il y a eu aussi des phases, tu vois, par exemple, avec des musiciens pas dispo. Voilà, tout un tas de comportements, de choses qui sont dites, qui passent pas trop. Et puis moi, j'avais plus envie d'être dépendante, en fait. Voilà, si je dis souvent ça pour blaguer, mais peut-être qu'un jour ce sera vrai, mais si Beyoncé m'appelle demain, il faut que je puisse jouer, tu vois. Et pas qu'un
Normal.
musicien me dise non, bah désolé, je joue, tu vois, ailleurs. Non, en fait, j'avais vraiment besoin de me faire confiance, en fait. Tout ça, c'est vraiment dans ce processus-là, d'un peu plus me faire confiance, de croire un peu plus en moi-même. Et Skyron, c'est vrai que le beatmaker qui a fait toutes les prods sur les morceaux m'a redonné cette confiance-là dont j'avais besoin, que je pense que j'avais perdu un peu, parce que autour de moi, peut-être qu'à un moment, on a réussi à me faire croire que sans les musiciens, sans les programmateurs, sans le manager, voilà, j'étais pas grand-chose. Donc a priori, c'est pas un bon entourage qui te fait penser ça. Donc si tu arrives à douter de toi-même, c'est que voilà. Donc j'avais vraiment besoin, envie de me refaire confiance, de reprendre les rênes du truc et de me prouver à moi-même et certainement à eux aussi que j'arrivais à faire des choses un peu voilà. J'étais pas complètement folle. Tu vois ce que je veux dire?
Carrément. Alors là, on parle de musique, mais dernièrement, tu as quand même sorti un documentaire sur Ziska Khan à l'aide de Sébastien Follin. Tu peux nous en parler un petit peu ou pas?
Ouais, c'est un long, pareil, tout ça, c'est des longs processus. Le public voit pas forcément tout ce travail intérieur, cette recherche, cette réflexion. Moi, le documentaire, donc je l'ai coécrit avec Sébastien Follin. C'est vraiment une idée que j'ai eue il y a très très longtemps quand je faisais mes études à Montpellier en sociolinguistique, où en fait j'ai eu l'occasion d'interviewer papa, donc Gilbert Pougnat, pour ceux qui ne savent pas. J'ai eu l'occasion de l'interviewer dans le cadre d'un truc d'études, quoi. Et en fait, il m'a dit, vas-y, bah moi, je réponds juste à tes questions, je ne vais pas parler beaucoup et tout. Et en fait, il a parlé pendant 3 heures. Tu vois, j'ai cette bande-là qui est assez incroyable, où il parle du savoir-vivre créole, de l'organisation des jardins créoles, de la façon de cuisiner, de lui, quand il vivait avec ses parents, ses grands-parents, il dormait sur des lits de paille. On parle, tu vois, il est né en 53, 53. Tu vois, on parle d'un temps, enfin, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois, à La Réunion. Et en fait, bah, les gens ont tendance à oublier ça. Et je me suis dit aussi, avant que bah, tous ces gens s'en aillent, parce qu'il y a papa, mais il y a aussi Patrice Tretart, il y a aussi Sully Andoche, il y a Alain Armand, Carpana Marimoutou, Bernard Payet, Gérard Chopinet, enfin, il y a plein, plein de gens. Qui sont dans ce mouvement-là. C'est vraiment une histoire d'association, de solidarité, d'entraide. Et moi, je me suis dit, bah, avant que les gens s'en aillent, ce serait bien de leur dire merci, tant qu'ils sont encore là, tu vois, de pas attendre qu'ils soient partis pour leur dire à quel point je les aime et à quel point un grand merci pour tout ce qu'on vit aujourd'hui. Tu vois, un festival comme le Tempo, il n'y aurait pas eu Baguette aussi à l'époque, ben voilà, ça n'existerait probablement pas. Et en fait, ben voilà, c'est rendre hommage et pas oublier d'où on vient, même si aujourd'hui on fait autre chose. C'était ma façon de rendre cet hommage-là.
Et bah, félicitations déjà pour ce
Merci.
documentaire. Hein. Faut pas oublier qu'il a reçu quand même déjà un prix.
Ouais, il a reçu le prix de l'Académie Charles Cros. Là, je pense que, enfin voilà, j'ai énormément de bons retours. Il va être diffusé. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais il va être diffusé à l'Assemblée nationale le 6 juin. Voilà, c'est bien qu'il se passe des choses comme ça malgré tout et que ce soit qu'on devienne visible enfin.
Et pour finir, on va te poser deux petites questions. Alors, un lieu insolite où tu as joué, ou un lieu qui t'a marqué?
Oui, bah alors il n'y a pas de fin. Oui, alors je sais pas. Oui, ça m'a marqué, mais peut-être pas enfin, pardon pour eux, pas trop dans le bon sens. Mais en vrai, j'ai joué dans un festival baroque l'année dernière. Et en fait, la directrice, je lui passe le bonjour si elle m'écoute, mais elle avait programmé l'album Pandillé à la base, donc avant Covid. Et on s'est retrouvés avec Sauvage, et du coup, ils n'arrêtaient pas de nous demander de baisser le son, de baisser le son, de baisser le son pendant les balances. Et à un moment, je lui ai dit, bon, ben, vous êtes bien gentil, mais en fait, là, moi, je ne peux pas baisser plus que ça. Soit je ne joue pas et vous expliquez aux gens pourquoi je ne joue pas. Mais bon, c'est vrai que Festival Baroque, voilà, on ne s'attend pas à voir de la pop urbaine. Voilà, j'entends qu'il faille, voilà, tu vois. Voilà, bouh, c'était ça que j'ai. C'est ce que j'ai un peu ressenti. Et en fait, le concert s'est super bien passé. Les gens étaient hyper heureux. On a adapté, bien évidemment, un peu. Mais voilà, il s'agit de faire confiance, en fait. Aussi, quand tu fais un boulot de programmateur, je trouve qu'il faut faire confiance aussi à l'artiste que tu programmes. Et voilà. C'était un peu un lieu insolite, mais j'ai un petit top 2. Il y a celui-là, et puis il y a aussi dans le Rajasthan, festival de Jodhpur Reef, dans le palais du Maharaja, avec Mick Jagger au premier rang, qui arrive pendant le concert. Donc en fait, là, ça frise un peu le cerveau, ça fait un espèce de brain freeze, tu vois. Mais souvenir extraordinaire d'un Mick Jagger, qui tape à l'envers sur du Maloya, c'était assez extraordinaire.
Incroyable. Dernière petite question, du coup, ta claque musicale du moment.
Waouh! Moi, je suis une fan inconditionnelle d'Agnès Obel. Après, je suis de très près le parcours de Rosalia, que je suis depuis quelques années. Moi, je trouve que c'est un parcours qui me correspond parce qu'en fait, ben, la nana, elle chante catalan. Elle fait autant du reggaeton, du dancehall qu'une pure balade. Personne ne lui pose de questions sur son style musical et ni sur la langue d'ailleurs. Bon, après, j'entends qu'on parle un peu plus catalan ou espagnol que créole, mais c'est le même délire en fait. Donc, voilà, moi je suis ça de près. Après, il y en a énormément trop. Voilà, je saurais pas quoi. Il y en a trop. J'écoute beaucoup trop de choses en ce moment.
Eh ben, merci en tout cas à toi,
Merci,
Maya. Et puis,
merci.
ben, on te souhaite un bon concert pour ce soir.
Yes, merci beaucoup.